Bon, si vous voulez, vous voulez bien, on va commencer. Donc, aujourd'hui, j'aborde dans les cours 7 et 8 une question importante qui est le problème des superpositions linéaires bêta et des interférences quantiques. C'est un domaine où les interactions atomes-photons ont permis d'apporter de nombreux exemples et de clarifier un certain nombre de situations. Si je considère un système en équilibre thermodynamique, qui est très souvent le cas, et si ce système a des niveaux d'énergie En, on sait très bien que la description de ce système est entière si on donne les populations des niveaux d'énergie qui, pour un équilibre thermodynamique de Maxwell-Boltzmann, est donné par la relation que Pn, la population du niveau N, est proportionnelle à e puissance moins Gn sur Kt, sur Kbt, où Kb est la constante de Boltzmann. Il y a un coefficient de normalisation tel que la somme des populations, bien sûr, doit être égale à 1. En termes de matrice densité, Pn est l'élément diagonal de l'opérateur densité sigma dans la base En, c'est l'élément de matrice entre En et En, et on peut considérer une matrice densité qui n'a que des éléments diagonaux de cette forme comme un mélange statistique d'état En avec des poids Pn. Il existe une autre situation où la description en termes de population est très commode et exacte. C'est celle d'un système qui serait soumis à une perturbation dont l'effet peut être décrit entièrement en termes de taux de transition, de probabilité de transition par unité de temps du niveau n au niveau n'. Et, par exemple, l'équation d'évolution de la population d'état n, pi point n, c'est égal à ce qui part du niveau n vers tous les autres états, moins sigma sur n' différent de n de wn n' pi n, plus tout ce qui arrive dans l'état n à partir des autres états n', plus sigma de n' différent de n, wn' vers n, pi n'. C'est une équation de ce type, par exemple, qu'Einstein a utilisée en 1917 pour essayer de retrouver la loi de rayonnement du corps noir et qu'il a été amené ainsi à introduire la notion importante d'émission stimulée. Bon, ceci dit, on sait très bien que en mécanique quantique, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est les superpositions linéaires d'états. Il ne faut pas oublier qu'un état, un système peut aussi exister dans une superposition linéaire des états d'énergie En avec des coefficients complexes Cn. Ça veut dire ça que si, même si je considère une situation où je n'ai pas un cas pur, c'est-à-dire où j'ai non pas un état psi bien défini, mais un mélange statistique d'états type psi, ce qu'on appelle à ce moment-là l'élément non diagonal de l'opérateur densité, sigma entre n et n', c'est la moyenne de cn, cn' étoile, la quantité correspondante pour un état particulier du mélange statistique, moyennée sur tous les états du mélange statistique. Il peut très bien se produire que la moyenne de cn, cn' étoile sur tous les états du mélange statistique n'est pas nulle. Ça veut dire en particulier que la phase relative des coefficients cn et cn' ne se moyenne pas à zéro. À ce moment-là, on a une situation où donc, il faut absolument tenir compte des éléments non diagonaux de l'opérateur de densité, et il est très courant d'appeler un élément non diagonal de la forme sigma nn' la cohérence entre les états nn'. La phase entre les états n et n' ne se moyenne pas à zéro qu'en moyenne sur les états du mélange. Alors, il faut voir que la notion de superposition d'états est absolument centrale en mécanique quantique, parce qu'en mécanique quantique, on a plusieurs possibilités qui peuvent se produire pour conduire un système d'un état initial à un état final. Ce n'est pas la notion de probabilité qui est centrale, c'est la notion d'amplitude de probabilité. Et comme les états sont linéairement superposables, l'amplitude de probabilité associée à un processus peut apparaître comme une somme d'amplitude associée aux divers chemins et comprend le carré du module de cette somme d'amplitude, on voit apparaître des termes d'interférence. Et ces interférences décrivent des interférences quantiques entre amplitudes de transition partant du même état initial et aboutissant au même état final. Et les effets physiques correspondants qui sont associés à ces interférences sont peu intuitifs et sont absolument impossibles à comprendre en termes de population et en termes de probabilité. Disons, ces effets, c'est vraiment ce qui constitue le fondement, la richesse de la mécanique quantique et un peu aussi son mystère, parce qu'il est très difficile de se faire une idée intuitive conforme à notre intuition des phénomènes courants, de ces phénomènes d'interférence. Il faut prendre une certaine habitude, acquérir une certaine intuition de ces phénomènes quantiques. Ce que je voudrais faire dans ce cours 7 et dans ce cours 8, c'est d'abord montrer comment en utilisant les interactions atome-photon, on peut créer et détecter des cohérences. Cohérence entre, par exemple, deux sous-niveaux Zeeman différents du même niveau hyperfin, qu'on appelle des cohérences Zeeman, cohérence entre deux niveaux Zeeman appartenant à deux niveaux hyperfins différents, qu'on appelle des cohérences hyperfines, cohérence entre un sous-niveau Zeeman de l'état excité et un sous-niveau Zeeman de l'état fondamental, qu'on appelle des cohérences optiques. Et je voudrais aussi vous montrer que ces cohérences se manifestent par des effets physiques importants, des effets nouveaux, et que ces effets nouveaux peuvent avoir des applications intéressantes. Alors, comme je l'avais fait pour la discussion des processus multiphotoniques, ces effets d'interférence se sont bien développés dans le domaine des radiofréquences, et ils ont servi un petit peu de base pour des développements plus récents, que je voudrais discuter peut-être dans le cours suivant, le cours 8, tout à l'heure. Et ces problèmes plus récents, d'abord, c'est les cohérences spatiales. C'est l'élément de matrice non diagonale de l'opérateur de densité d'un atome, ou d'une particule quelconque, entre deux points R et R' différents de l'espace. La particule peut être à la fois en ce point et en ce point, et ces éléments non diagonaux, c'est ce qu'on appelle les cohérences spatiales. Elles jouent un rôle fondamental pour comprendre, par exemple, l'interférométrie atomique, comprendre qu'on peut faire interférer des chemins où l'atome passe par des points différents de l'espace. Elle est aussi importante pour comprendre les propriétés de cohérence, par exemple, des condensats de Bose-Einstein. Je voudrais aussi indiquer qu'une autre notion importante rattachée à la notion de superposition linéaire d'état, c'est la notion d'état intriqué. Si on prend maintenant non pas un système, mais deux systèmes, A et B, et si l'état de ces deux systèmes est une superposition linéaire de deux états produits différents de ces états A et B, on a un état qui est une superposition linéaire d'état qui ne peut pas être écrit sous forme d'un produit d'un état du système A par un état du système B. Par exemple, si j'ai deux spins et demi, l'état singulier du spin, A plus B moins, moins A moins B plus, est un état qui n'est pas factorisable, c'est ce qu'on appelle un état intriqué, et comme vous le savez, ces états jouent un rôle de plus en plus important dans tous les problèmes d'information quantique. Enfin, un autre problème très important relié aux superpositions d'état, c'est la notion de dissipation, de relaxation, on dit maintenant de cohérence, le taux avec lequel s'amortit une cohérence entre deux états macroscopiquement différents. Et je vais essayer de vous montrer sur des exemples simples comment ce taux de décohérence croît comme le carré de la distance entre les deux états. Donc, pour ce premier cours, 7, je vais d'abord, dans une première partie, expliquer comment on crée, comment on détecte des cohérences atomiques dans E, dans l'état excité, dans l'état fondamental, entre E et F, et j'essaierai d'introduire le plus simplement possible une équation d'évolution de ces cohérences. Puis ensuite, j'ai passé en revue un certain nombre d'effets physiques associés à ces cohérences, les résonances de croisement de niveau qui ont des applications très intéressantes en magnétométrie, l'excitation à lumière modulée, la modulation de la lumière émise ou absorbée par un atome qui subit la résonance magnétique, les battements quantiques et la femtochimie maintenant, le piégeage cohérent de population et les états noirs. Tous ces effets sont liés très étroitement à la notion de superposition d'état. Donc je commence par création et détection de cohérences atomiques. Comment créer des cohérences Zeeman dans l'état excité? Bien sûr, il y a d'abord une méthode extrêmement simple, c'est de faire agir sur l'atome un champ de radiofréquence résonant. Par exemple, dans la première expérience que j'ai décrite dans le cours 1, ou dans le cours 2, je crois, si on a une transition 0,1, une excitation pi porte l'atome dans l'état m égale 0 de l'état excité, et en soumettant cet atome pendant son séjour dans l'état excité à un champ de radiofréquence résonant, on transforme son état en une superposition linéaire des états m égale plus 1, 0 et moins 1. Donc on crée une superposition linéaire d'état dans l'état excité. On peut alors se poser la question, est-il possible de créer avec un champ optique, large bande, comme c'était le cas il y a donc quelques années avant l'apparition des lasers, est-il possible de créer des cohérences Zeeman dans l'état excité? À première vue, la réponse est non, parce qu'un champ optique large bande, on peut le considérer comme un mélange statistique d'ondes planes K avec des poids I de K, formant une raie de très grande largeur spectrale, et chacune de ces ondes a une phase complètement aléatoire. Et on peut se demander comment il est possible de créer des superpositions cohérentes d'état avec un champ de phase aléatoire. En fait, nous allons voir que c'est possible et qu'il est possible de créer des cohérences Zeeman pourvu que la polarisation du faisceau lumineux soit convenablement choisie, même si ce faisceau est largement. Alors pourquoi? Eh bien, prenons, si vous voulez bien, une polarisation linéaire, une polarisation de la lumière qui n'est ni sigma plus, pur, ni pi pur, ni sigma moins pur, mais une superposition linéaire de ces trois états de polarisation. Il suffit par exemple, un exemple concret, de prendre un faisceau sigma plus, mais perpendiculaire à l'axe Z de quantification le long duquel est appliqué le champ magnétique. Donc le vecteur polarisation, c'est une certaine superposition linéaire de la polarisation sigma plus, epsilon 0, epsilon moins, polarisation pi, polarisation sigma moins. Partant de l'état fondamental, et si je prends une onde du mélange statistique, une onde bien déterminée, l'atome peut passer de l'état fondamental à l'état plus 1 avec une amplitude proportionnelle à A plus, à l'état M égale 0 avec une amplitude proportionnelle à A 0, et à l'état moins 1 avec une amplitude probabilité proportionnelle à A moins. Alors ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, la phase du dipôle induit optique est aléatoire parce que l'onde K n'a pas de phase bien définie, mais les relations de phase, la phase relative de l'amplitude d'être dans 0 plus 1 ou moins 1, elle est bien définie parce qu'elle ne dépend que des phases relatives de A plus, A0 et A moins. Et quand on moyenne ensuite sur toutes les ondes planes, comme cette phase relative ne dépend que de l'état de polarisation, elle ne va pas se moyenner à 0 et on va créer donc des cohérences Zeeman dans l'état excité. Elle ne se moyenne pas à 0. Et donc, si on choisit convenablement la polarisation, il apparaît bien des cohérences Zeeman dans l'état excité. Alors, ce raisonnement peut paraître un peu abstrait, et je crois qu'on peut le rendre beaucoup plus concret en termes de moment cinétique transversal. En effet, prenons un exemple concret, le champ magnétique est aligné le long de l'axe Z de quantification, et supposez que je prenne un faisceau lumineux avec une polarisation sigma plus par rapport à l'axe X. Alors, la polarisation sigma plus par rapport à l'axe X, ça va être EZ plus I et Y, et c'est développable en sigma plus, sigma moins et pi par rapport à Z. Alors, que fait quand l'atome absorbe un photon de ce type, sigma plus, il va gagner une unité de moment cinétique le long de l'axe X. Il va être donc préparé dans l'état ME égale plus 1 par rapport à l'axe X. Et comme JX et JZ ne commutent pas, l'état M égale plus 1 par rapport à X est une superposition linéaire des trois états M égale plus 1, 0, moins 1 par rapport à l'axe Z. Donc le fait qu'on a créé une superposition linéaire d'état, c'est tout simplement qu'on a introduit un moment transversal, un moment cinétique transversal. Plus généralement, quand on prend une polarisation qui n'est ni sigma plus pur, ni pi pur, ni sigma moins pur, on crée, en termes un peu plus savants, ce qu'on appelle un alignement ou une orientation transversale. Dans le développement de la matrice densité en opérateur tensoriel et réductible, on crée un T1 plus ou moins 1, qui est une orientation transversale, ou un T2 plus ou moins 2, T2 plus ou moins 1, qui est un alignement transversal par rapport à l'axe Z. Alors ceci, c'est donc une simple conséquence de la conservation du moment cinétique lors de l'absorption du photon. Alors on peut se poser la question, comment créer une cohérence Zeeman dans l'état fondamental? C'est pas plus compliqué. On peut d'abord, bien sûr, faire un champ de radiofréquence résonant, comme tout à l'heure, et on peut faire un pompage optique avec un faisceau transversal perpendiculaire au champ magnétique de grande largeur spectrale. En effet, si je considère, par exemple, toujours la même disposition que tout à l'heure, un pompage optique avec cette polarisation, et ce faisceau parallèle à l'axe X, vous savez que si je prends une transition 1/2, 1/2, seuls les sous-niveaux moins 1/2 par rapport à l'axe X peuvent absorber de la lumière. Pour rappeler, la transition 1/2, 1/2, uniquement les états moins peuvent absorber un photon sigma plus. Donc seuls les atomes dans l'état MF égale moins 1/2 par rapport à l'axe X, qui dans la base Z est donnée par ce développement, peuvent absorber un photon. Et on a entendu donc que la matrice densité va devenir non diagonale dans la base plus ou moins 1/2 par rapport à l'axe Z, parce qu'on va introduire là aussi un moment transversal dans l'état fondamental perpendiculaire au champ magnétique. Alors, j'ai expliqué comment on peut créer des cohérences Zeeman dans E et dans F. Comment peut-on les détecter? C'est très simple à comprendre. Il suffit de détecter la lumière qui est émise ou absorbée et qui a une polarisation epsilon qui n'est ni sigma plus pur, ni sigma moins pur, ni pi pur. Par exemple, dans l'exemple précédent du pompage optique avec une transition 1/2, 1/2 avec une polarisation sigma plus par rapport à l'axe X, les seuls atomes qui peuvent absorber un photon sont ceux qui sont dans l'état moins 1/2 X par rapport à l'axe X, et la population de cet état peut s'écrire dans la base Z comme 1/2 de sigma plus plus, plus sigma moins moins, moins sigma plus moins, moins sigma moins plus. Donc le signal d'absorption est proportionnel, fait intervenir, et est sensible aux cohérences Zeeman dans l'état fondamental. Alors, dernier point, comment créer des cohérences optiques? Comment créer des cohérences optiques entre l'état plus, entre l'état E et l'état F? Alors là, évidemment, il faut exciter les atomes avec un champ cohérent, qui a une phase bien définie, un champ laser cohérent. Et comme vous le savez, les cohérences optiques, c'est les éléments non diagonaux de l'opérateur densité entre E et F, sont proportionnels au dipôle électrique moyen de l'atome. Elles décrivent le mouvement du dipôle moyen induit par le champ laser incident. Comment les détecter? Eh bien, on peut les détecter par exemple par le champ rayonné par ces dipôles atomiques, c'est par exemple le cas de la diffusion Rayleigh. Et pour étudier l'évolution d'un tel système, il faut très souvent utiliser ce qu'on appelle les équations de Bloch-Maxwell, qui décrivent l'évolution couplée du champ et des dipôles induits par ce champ. Alors, pour terminer cette première partie, il est important pour analyser quantitativement une expérience donnée d'écrire l'équation d'évolution des cohérences atomiques. Et je vais prendre deux cas extrêmes. D'abord, le cas d'une excitation en raie très large, cas des sources thermiques. À ce moment-là, comme je l'ai rappelé dans le premier cours de cette année, les processus d'absorption d'émissions induites durent un temps très court, de l'ordre de 1 sur delta, où delta est la largeur de raie, et ce temps est très court devant tous les autres temps caractéristiques du problème. Précession de l'arbre dans l'état excité, durée de vie de l'état excité. Et à ce moment-là, les processus d'absorption, d'émission stimulée, et bien sûr aussi d'émission spontanée, peuvent être décrits par des taux de transition, par des équations de taux, décrivant comment l'état excité se vide, comment l'état fondamental se remplit lors des processus d'absorption et d'émission. Donc on a des équations de taux couplant la matrice densité dans l'état excité à la matrice densité dans l'état fondamental. Lesquelles deux matrices densité, elles ne sont pas nécessairement en diagonale parce qu'il peut y avoir des cohérences Zeeman. Par contre, la matrice densité entre E et F, elle, peut être ignorée, il n'y a pas de cohérence optique. Et il faut bien sûr ajouter à ces taux d'absorption d'émissions induites et d'émissions spontanées les termes décrivant l'évolution sous l'effet du champ statique, précession de l'Armor, et éventuellement l'interaction avec un champ de radiofréquence appliqué aux atomes. Alors, on peut deviner, je n'ai pas le temps ici bien sûr d'établir ces équations d'évolution, mais leur forme peut se deviner facilement. L'équation d'évolution d'une cohérence MM', d sur dt de sigma MM', avec MM', soit des cohérences dans l'état excité, soit des cohérences dans l'état fondamental, il va y avoir un terme source, A de t, qui décrit la manière dont elles sont préparées par l'excitation optique, par l'absorption, par exemple, ou par le pompage optique, moins J oméga MM', sigma MM', qui va décrire l'évolution propre de ces cohérences, par exemple sous l'effet d'un champ magnétique, et elles ont la forme moins J oméga MM', sigma MM', ou oméga MM', et la différence des énergies des deux niveaux MM' divisé par H bar. Et enfin, il y a un amortissement qui est dû soit à l'émission spontanée et l'émission induite, soit au taux d'absorption que j'appelle gamma, qui est soit gamma E pour E, soit gamma F pour F. Donc c'est une équation différentielle linéaire avec des coefficients A, oméga et gamma. Si on a maintenant une excitation en raie étroite, à ce moment-là, il faut absolument tenir compte des équations des cohérences optiques, et à ce moment-là, l'évolution est décrite par ce qu'on appelle les équations de bloc optique, qui décrivent l'évolution couplée de la matrice densité réduite dans E, de la matrice densité réduite dans F, et de la matrice densité entre E et F. Et ces équations sont très analogues avec des équations de bloc de la RNN, et c'est pour ça qu'on les appelle les équations de bloc optique. Après donc cette introduction générale à la manière de préparer, de détecter, de décrire l'évolution des cohérences atomiques, je voudrais maintenant passer à la description d'un certain nombre d'effets qui leur sont associés. Et le premier effet que je vais étudier, c'est ce qu'on appelle la résonance de croisement de niveau, également l'effet Hahnle, du nom du physicien allemand qui a, un certain nombre d'années, introduit pour la première fois cet effet dans l'état excité. Alors, je vais supposer que j'ai un atome, J'ai un atome ayant deux sous-niveaux excités, E1 et E2, qui, lorsqu'on balaye le champ magnétique B0, se croisent au voisinage d'une certaine valeur B0C du champ magnétique. Et je vais supposer que ces atomes sont éclairés, qu'ils sont contenus dans une cellule ici, le champ magnétique B0, ils sont éclairés par un faisceau lumineux de largeur spectrale grande, ayant une polarisation epsilon, et on détecte la lumière que cet atome rémet dans une autre direction avec une polarisation epsilon prime. Et j'ai supposé que ce faisceau lumineux a une excentricité constante. J'ai supposé de plus que epsilon et epsilon prime sont des combinaisons linéaires des deux polarisations couplant les états fondamentaux A1 et A2. Donc, ces deux polarisations epsilon et epsilon prime, ce ne sont pas des polarisations pures permettant d'exciter seulement A1 ou seulement A2, ou de détecter seulement A1 ou seulement A2. Et la question, comment varie la fluorescence quand on balaye le champ autour du point de croisement? Alors, revenons à l'équation d'évolution de sigma 1,2 que j'ai donnée tout à l'heure, que j'ai réécrit ici. Comme l'intensité lumineuse excitatrice est constante, le coefficient A, le terme source ici, est constant. Et si je regarde cette équation, il est clair qu'elle a une solution stationnaire, obtenue en égalant la vitesse de variation à zéro, et que cette solution stationnaire, en égalant ce terme à zéro, c'est tout simplement A sur gamma plus I oméga 1,2, gamma E plus I oméga 1,2. Et comme la lumière de détection, le signal de détection est sensible à sigma 1,2, quand je varie oméga 1,2 en balayant le champ magnétique, je m'aperçois qu'il y a une résonance, que les parties réelles et imaginaires de sigma 1,2 stationnaires vont varier comme des courbes d'absorption et de dispersion de largeur gamma E, centrées au point où les deux niveaux se croisent. Alors évidemment, les niveaux Zeeman se croisent en champ nul, et ça c'est ce qu'on appelle l'effet de Leu. Il peut y avoir aussi deux niveaux hyperfins, deux niveaux Zeeman appartenant à des niveaux hyperfins différents, qui se croisent en un point donné. Et le physicien qui a observé la première fois une résonance de croisement de niveaux sur ce point, c'est Frumkin, donc on l'appelle aussi l'effet Frumkin. Alors pourquoi ces résonances sont intéressantes, et pourquoi elles ont joué un rôle important dans le développement de la physique atomique, c'est que vous voyez que même avec un faisceau lumineux de grande largeur spectrale, il est possible d'avoir un signal dont la largeur est déterminée par la largeur naturelle de l'état excité. Donc on peut mesurer une largeur naturelle, gamma E, avec un faisceau dont la largeur delta est beaucoup plus grande que gamma E. Donc ça a été utilisé de manière absolument intensive pour mesurer les largeurs naturelles des états excités. Alors, je crois qu'il est très intéressant de se représenter cet effet d'une autre manière, pour faire apparaître la notion d'interférence entre amplitude de transition. En effet, si on prend la représentation diagrammatique que j'ai introduite, je crois, dans un cours précédent, de la diffusion d'un photon par l'atome, vous voyez que on peut représenter la situation de cette manière. L'atome part de l'état F, il y a un photon epsilon qui arrive sur lui, l'atome monte dans l'état 1, puis il retombe dans l'état F en émettant... Ah, là, je crois que j'ai oublié le... Oui, non, il tombe dans l'état fondamental en émettant un photon epsilon prime. Mais il peut aussi très bien se passer le même processus, mais où l'atome, au lieu de passer dans E1, passe dans E2. Ça, c'est l'état initial, ça, c'est l'état final. Quand on détecte le photon epsilon prime, on ne sait pas si l'atome est passé dans E1 ou dans E2. Si on essaie de le savoir, sinon on ne peut pas détruire le phénomène d'interférence. Mais ces deux chemins interfèrent, parce que ce sont deux amplitudes de probabilité qui partent du même état initial, qui aboutissent au même état final. Et là, on voit très bien l'importance du fait que epsilon et epsilon prime doivent être tous les deux des superpositions linéaires des deux polarisations de base, epsilon 1 et epsilon 2. En effet, si partant de F, en absorbant un photon epsilon, je vais aller dans E1 et E2, il faut que la polarisation epsilon me permette d'exciter ces deux systèmes, ces deux sous-niveaux Zeeman. Donc la polarisation epsilon doit être telle que les deux chemins sont ouverts. Et de même, le photon détecté, epsilon prime, doit être tel que partant de E1 ou de E2, je peux soit avec E1, soit avec epsilon prime, soit en partant soit de E1, soit de E2, retomber dans F. Donc le choix des polarisations est dicté par le fait que les deux chemins doivent être ouverts simultanément. Maintenant, si on se rappelle l'expression de l'amplitude de probabilité associée à un tel chemin, ça va être un certain, par exemple pour celui-là, ça va être un certain numérateur qui va être le produit de cet élément matrice associé à cette interaction et à celle-là, divisé par un dénominateur d'énergie, oméga moins oméga E1F, et comme l'état E1 est instable avec une largeur gamma E, il faut ajouter, comme vous le savez, une énergie I gamma sur 2 à l'énergie de l'état excité, donc plus I gamma E sur 2. Et l'amplitude associée à ce chemin, ça va être A2 divisé par oméga moins oméga 2F, moins oméga E2F, plus I gamma E sur 2. Là, les deux amplitudes, quand j'élève au carré, A2, je vais avoir un terme d'interférence qui va être le produit de ce terme par le complexe conjugué de celui-ci. Et on voit tout de suite sur cette expression que ces deux termes vont être simultanément importants quand ce dénominateur, cette partie-là et cette partie-là s'annulent toutes les deux, c'est-à-dire au point de croisement, justement. Si on n'est pas au point de croisement, ces deux quantités ne peuvent pas s'annuler simultanément. On peut aller plus loin. Si, en moyenne, ce terme d'interférence sur toutes les fréquences possibles du faisceau incident, c'est-à-dire si on prend A2 qu'on intègre sur dω, on va avoir à faire l'intégrale dω de 1 sur ω moins ωi1f plus i gamma i sur 2, que multiplie 1 sur oméga moins oméga et 2f moins i gamma sur 2, et une intégration élémentaire par les résidus donne pour résultat 1 sur oméga 1, 2 plus i gamma et on retrouve le résultat que j'avais obtenu à partir de l'équation pilote. Donc on voit bien que le signal de croisement de niveau est lié à une interférence entre ces deux chemins. Alors on peut se poser maintenant la question, est-il possible d'observer le même effet sur l'état fondamental? Alors là c'est un peu plus subtil, mais c'est très facile à comprendre. Si je vais représenter maintenant ce qui se passe dans le plan XY, perpendiculaire au champ magnétique qui est perpendiculaire au plan du tableau. Quand un spin est pompé par pompage optique, je crée dans l'état fondamental un moment cinétique plus 1 en unité de H bar sur 2 le long de la direction X. Le problème, c'est que si un champ magnétique, ce spin ne va pas rester le long de l'axe X, il va précesser autour de Z, il va donc tourner d'un angle, oméga LT. Un spin qui a été préparé à T égale 0, le long de l'axe X, va avoir tourné, avec une longueur 1, en unité de H bar sur 2, va avoir tourné d'un angle oméga LT après un temps T, et comme il a une certaine probabilité de partir dans l'état excité par absorption, la probabilité qui reste là va être multipliée par E puissance moins gamma ST ou gamma F, et le taux de relaxation de l'état fondamental. Donc, voilà un spin qui est pompé à l'instant t égale 0, voilà un spin qui a été pompé à un instant t auparavant. Si maintenant je me place à un instant donné, il faut que je fasse la résultante géométrique de tous les spins qui ont été pompés dans le passé de cet instant. Alors là, deux cas. Si pendant la durée de vie de l'état fondamental, il tourne très peu, je vais avoir un éventail dont il faut que je prenne la résultante géométrique avec une très faible ouverture. Et donc je vais avoir une résultante importante, et elle va diriger dans cette direction. Et vous voyez que la composante sur X, quand je balaye le champ autour de 0, va varier comme une courbe d'absorption, et la composante sur Y va varier comme une courbe de dispersion. Pardon, si je suis allé trop vite, si oméga, je suis allé de l'autre côté, si au contraire le champ magnétique est très très fort, les spins vont tourner un très grand nombre de fois avant de s'amortir, et quand je vais avoir affaire à la résultante géométrique, je vais avoir un éventail complètement isotrope, et la résultante sera nulle. J'aurai Jx égale 0, Jy égale 0. Si au contraire, oméga L est de l'ordre de gamma F, ou plus petit que gamma F, ils vont former un éventail peu ouvert, et Jx va varier comme une courbe d'absorption, Jy va varier comme une courbe de dispersion. Alors pourquoi l'effet en le dans l'état fondamental est-il intéressant? Et facile à comprendre, c'est que dans l'état fondamental, la largeur de l'état fondamental est beaucoup plus petite que celle de l'état excité. Elle n'est déterminée que par les processus de relaxation et par le taux d'absorption. Donc c'est une largeur qui est considérablement plus faible que celle de l'état excité. Par contre, oméga L, la fréquence de l'amorce, si l'état fondamental est paramagnétique, est du même ordre de grandeur. Par exemple, si on prend oméga L de l'ordre de 1 MHz par Gauss, moment magnétique électronique, et si on prend un temps de relaxation, un taux de relaxation qui est 1 seconde moins 1, un taux de relaxation d'une seconde, qui est très courant avec des bonnes parois, à ce moment-là, la largeur de la résonance va correspondre à un champ magnétique tel que la fréquence de l'armor est de l'ordre de 1 cycle, c'est-à-dire 10 moins 6 Gauss. Donc on va avoir une résonance très fine. Et effectivement, voici une résonance obtenue dans notre équipe en 69, une résonance donc d'effet en leu dans l'état fondamental du rubidium. Et vous voyez ici, la largeur est de l'ordre du micro-Gauss, et comme elle est détectée par des techniques de modulation que j'ai expliquées dans un petit moment, le rapport signal sur bruit est excellent. On a le bruit multiplié par 100. De sorte que si on se place en ce point, et qu'on applique des variations de champ magnétique ici de l'ordre de 2, 10, moins 9 Gauss, le signal réagit, et on peut détecter donc, si on prend le bruit ici, vous voyez qu'on peut détecter, on a un magnétomètre qui a une sensibilité de 5, 10, moins 10 Gauss. Donc cet effet d'interférence permet une détection très très sensible du champ. Je signale d'ailleurs que des autres phénomènes physiques connus permettant de mesurer des champs magnétiques avec une telle sensibilité, c'est les SQUID, utilisant l'effet Josephson, c'est eux aussi utilisent des effets d'interférence. En général, les effets d'interférence sont toujours, conduisent toujours à des raies très étroites, des franges d'interférence très fines, et ils ont une très grande sensibilité. Alors, juste pour donner un exemple amusant, à l'époque, nous avions fait aussi une expérience suivante. On avait essayé de mettre une grenouille dans le magnétomètre pour détecter le champ créé par cet organe vivant, parce qu'en fait, le champ du cœur, par exemple, quand le cœur bat, il y a des courants ioniques dans le cœur qui créent un champ de l'ordre de 10-7 Gauss. Donc, le magnétomètre serait capable de les détecter. Le cerveau, lui, donne des champs de l'ordre de 10-9 Gauss. Simplement, il faut bien sûr se protéger contre les champs parasites qui sont beaucoup plus grands que ça, donc il faut faire l'expérience dans un blindage. On n'a pas eu le courage de se lancer dans ces applications. En fait, on n'a pas été assez sûr. Il aurait fallu non pas détecter le champ, mais le gradient de champ qui, lui, n'est pas sensible au champ parasite. Et d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que dans les applications médicales des magnétomètres, on ne mesure pas un champ magnétique, on mesure un gradient de champ, un gradient spatial. Mais juste cette expérience, on a une cellule d'hélium, 3, pompée optiquement, par les méthodes que j'ai décrites, d'échange de métastabilité que j'ai décrites dans le cours 2, je crois. À ce moment-là, les noyaux de hélium 3 sont polarisés. C'est des noyaux, ce n'est pas des électrons, hein. C'est des moments magnétiques nucléaires. Il y en a à peu près 5 10 puissance 15 seulement, dans 100 cm3. On met à côté une cellule de 87, de rubidium 87, qui sert de magnétomètre. Ces noyaux créent un champ macroscopique au voisinage du centre de la cellule. On fait l'effet en leu dans ce champ dirigé dans cette direction, perpendiculaire, et pour le faire varier, on applique un tout petit champ au noyau d'hélium 3 pour les faire tourner dans ce sens, de sorte que ça module le champ dans cette direction détecté par les magnétomètres. Et voici donc la détection d'un champ qui est ici de l'ordre de 10-7 Gauss, et puis 10 heures après ou 11 heures après, comme le temps de relaxation de l'hélium 3 est de plusieurs heures, on continue à avoir le champ, on continue à avoir les noyaux d'hélium 3 précessés. Donc ici c'est une détection de la résonance magnétique basé sur le champ macroscopique, le champ magnétique macroscopique créé à une distance macroscopique de l'ordre de 10 cm par des noyaux orientés. Donc ça montre un peu la sensibilité de cette résonance de croisement de niveau. Plus récemment, nous avons repris l'effet en bleu dans l'état fondamental par une détection maintenant mécanique. L'idée est la suivante, on prend un jet atomique, ici dans le cas c'était d'hélium, et on l'éclaire à angle droit par un faisceau sigma plus. Alors, il faut bien voir que quand les atomes sont pompés optiquement, ils sont pompés dans un état qui n'absorbe plus de lumière. Et quand ils absorbent un photon, ils subissent une impulsion dans cette direction et ça défléchit le jet atomique. Donc si on met le détecteur hors de l'axe, on ne va détecter que les atomes qui ont été défléchis. Alors, si on est juste en champ magnétique nul, le pompage optique est très efficace, il place les atomes dans un état noir qui n'absorbe plus de lumière, et la déflexion est très faible, il n'y a pas de signal. Quand on met un champ magnétique dans cette direction, à ce moment-là, il n'y a plus d'état noir, les atomes absorbent de la lumière, et la déflexion est importante, et le signal augmente. Puis quand on est trop désaccordé en champ magnétique, on sort de la résonance optique et le signal redescend. Donc ici, on voit apparaître aussi une résonance très étroite, qui est une résonance d'effet en leu de croisement de niveau, détectée par un effet mécanique. Autre exemple que je voudrais donner, qui est beaucoup plus ancien, qui est une résonance de croisement de niveau en champ non nul d'un spin habillé par des photons de radiofréquence. Vous vous rappelez que quand j'ai discuté le diagramme des niveaux d'énergie de spin 1,5 habillé par des photons de radiofréquence de polarisation sigma perpendiculaire au champ magnétique, nous avons vu qu'il y avait des anticroisements pour toutes les valeurs telles que oméga 0 égale 2n plus 1 oméga, pour tous les croisements que j'avais appelés les croisements impairs. Par contre, les croisements pairs, oméga 0 égale 2n oméga avec n égale 0, 1, 2, ne peuvent pas correspondre à un anticroisement parce que un photon de polarisation sigma, c'est une superposition linéaire de sigma plus et sigma moins, qu'on absorbe deux photons, ils sont tous les deux sigma plus et delta m égale 2, ou ils sont tous les deux sigma moins delta m égale moins 2, ou l'un sigma plus, l'autre sigma moins, delta m égale 0, on ne peut pas faire delta m égale plus 1 avec deux photons. Donc ça reste des croisements. Par contre, les états perturbés, plus n et moins n plus 2, qui se croisent en oméga 0 égale 2 oméga, à cause du couplage atome-photon, ça c'est les états non perturbés, la règle de sélection, c'est delta m égale plus ou moins 1, delta m égale plus ou moins 1. L'état plus n est contaminé avec moins n plus 1 et moins n moins 1. et l'état moins n plus 2 est contaminé avec l'état plus un photon de moins n plus 1 ou un photon de plus n plus 3. Et quand je prends l'élément de matrice de Jx, la grandeur transversale entre ces deux états, Jx lui commute avec n, il ne peut pas relier des états qui ont la même valeur de n, mais voyez ici que j'ai cet état-là et cet état-là qui ont la même valeur de n, et donc l'élément de matrice de Jx va être proportionnel à gamma alpha étoile, l'élément de Jx entre ces deux états qui est h bar sur 2, donc gamma étoile alpha h bar sur 2. Alpha et gamma étant d'ordre 1 par rapport à l'amplitude du champ de radiofréquence. Donc une excitation lumineuse au voisinage de ce point de croisement peut introduire du moment transversal et par conséquent qui va s'accumuler en ce point et ça va donc donner une résonance de croisement de niveau. Et voilà des résonances de croisement de niveau qui ont été obtenues donc, il y a un certain nombre d'années. La résonance de croisement oméga 0 égale 2 oméga pour diverses amplitudes du champ de radiofréquence. Alors ici, ce qui est amusant, c'est que le déplacement de la résonance étant H1 carré, l'intensité qui est alpha, gamma étoile, alpha et gamma étant d'ordre 1, l'amplitude de la résonance étant H1 carré, donc tous les sommets ici se placent sur une ligne droite. Si on prend maintenant la résonance oméga 0 égale 4 oméga, le déplacement est en H1 carré, l'amplitude est en H1 puissance 4, et tous les sommets ici se placent sur une parabole. Alors ici, on a un exemple de résonance de croisement de niveau qui ne sont pas en champ nul, et qui montre très clairement, dans ce cas-là, l'importance des déplacements radiatifs des transitions multiphotoniques. Je passe maintenant à une deuxième application, après les résonances de croisement de niveau, excitation en lumière modulée. On suppose maintenant qu'on reprend la même expérience, mais qu'on module l'intensité du champ optique. Là encore, l'utilisation d'équations pilotes est très commune. Si je prends l'équation pilote, maintenant le terme source, lui, est modulé. A est puissance moins j oméga t, où oméga est la fréquence angulaire de l'excitation. Quand je prends cette équation, comme j'ai un terme source ici, il est clair que je vais avoir une solution en régime forcé de cette équation, et que je vais avoir une solution de la forme où sigma 1,2 va varier de manière sinusoïdale à la fréquence oméga. Et si je remplace sigma 1,2 par une certaine constante et puissance moins j oméga t que je reporte dans cette équation, j'obtiens ce résultat, on trouve que sigma 1,2 varie de manière résonante quand oméga 1,2 est balayé autour de oméga avec une largeur gamma. Alors, cet effet a été observé dans l'état excité et dans l'état fondamental, la première fois par l'équipe d'Oxford, Cornell et Series, également par Bell et Bloom aux États-Unis. Alors, l'interprétation de cette expérience en termes de moment transversal est très claire aussi. Pour l'effet en le, on introduit le moment cinétique dans cette direction, et c'est uniquement en champ nul que, comme il ne tourne pas, on peut accumuler. Si maintenant on est en champ non nul, le moment magnétique tourne. Mais si on pompe à ce moment-là, qu'on arrête la lumière, qu'on attend une période et qu'on repompe à ce moment-là, vous voyez que l'effet du pompage optique va être cumulatif si la fréquence de l'excitation est adaptée à la fréquence de rotation de l'aimantation transversale. Et quand oméga égale oméga 1,2, quand la fréquence de l'excitation correspond à la fréquence de l'armoire, l'effet va pouvoir être cumulatif et on va pouvoir accumuler les atomes dans bâtir une aimantation transversale qui va bien sûr tourner à la fréquence oméga. Il y a une autre interprétation intéressante de ces résonances qui permet de faire le raccord avec ce que j'ai dit la dernière fois sur l'effet Raman stimulé, c'est que quand on module en intensité à la fréquence oméga une onde lumineuse, on crée des bandes latérales. À oméga plus oméga, ou petit oméga moins oméga. Donc, l'excitation optique contient des bandes latérales, et à ce moment-là, on peut avoir des transitions Raman stimulées entre les deux niveaux fondamentaux, par exemple, où il y a absorption de oméga et émission stimulée de petit oméga plus grand oméga. Et bien sûr, ces transitions Raman stimulées sont résonantes quand l'écart des bandes latérales est égal à l'écart oméga 1,2 entre les deux sous-niveaux fondamentaux. Troisième application. Si la modulation de la lumière émise ou absorbée reflète l'existence de cohérences Zeeman dans E ou dans F, si ces cohérences Zeeman sont introduites par un champ de radiofréquence, si on fait la résonance magnétique, ces cohérences Zeeman vont être modulées à la fréquence du champ de radiofréquence ou à des multiples de cette fréquence. Ça va décrire le mouvement forcé de l'aimantation transversale dans E ou dans F sous l'effet du pilotage par le champ de radiofréquence. Si le signal de détection est sensible aux cohérences, on va avoir Ces modulations de la lumière émises, observées par la première fois par George Hayes à la fin des années 50, il les avait appelées des light beats, des battements lumineux. Et si vous voulez, le fait qu'on détecte ces modulations rappelle beaucoup la description habituelle de la résonance magnétique, où on a des spins qui tournent sous l'effet de la résonance magnétique, et on a des boucles, et on détecte la force électromotrice induite par la rotation des aimantations transversales. Alors, ça marche aussi dans l'état fondamental, et la lumière absorbée est modulée. Et voici par exemple, sur l'état fondamental de 199, la composante en phase est en quadrature de la résonance magnétique dans l'état fondamental, détectée avec une détection synchrone, verrouillée sur la phase du champ de radiofréquence. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des spins nucléaires qu'on détecte en quantité très faible, et on les détecte avec un très bon rapport signal-bruit parce qu'on détecte le signal modulé, et comme vous le savez, le spectre de bruit des sources lumineuses est beaucoup moins important à une fréquence élevée qu'à la fréquence zéro. Donc une détection en lumière modulée est beaucoup plus sensible qu'une détection en lumière statique. On peut aussi s'amuser à faire des transitoires, et par exemple ici, on a donc la modulation due à la résonance magnétique en régime stationnaire, on coupe la radiofréquence, et l'aimantation s'amortit, et ce qu'on mesure ici, c'est le T2. On peut au contraire partir sans résonance magnétique, appliquer la résonance magnétique et observer l'établissement du régime stationnaire. Ici, c'est une impulsion de pi sur 2, on a donc, les spins sont pompés dans la direction Z, on applique un pulse de pi sur 2, et puis on regarde l'aimantation transversale, on remesure T2 ici, mais en régime transitoire. Ici, c'est un pulse pi. Ici, c'est un pulse pi suivi d'un pulse pi sur 2 après, coup, et puis ici, deux pulse pi. Et on peut aussi faire une série de pulse pi avec des délais variables, ce qui permet de reconstruire, comme l'expérience de Bernard Cagnac que j'avais montré au tout début, on peut reconstruire le temps de relaxation T1 des spins. Donc on peut généraliser aux méthodes de détection optique toutes les méthodes qui sont basées sur la détection habituelle de la résonance magnétique par modulation. On peut en particulier faire des échos, des échos de spins. Je passe maintenant à une quatrième application qui est les battements quantiques. Alors, je reviens toujours à l'équation de départ parce que cette équation permet de comprendre tout. Maintenant, l'excitation est percussionnelle, c'est-à-dire que le terme source, il est tout le temps nul, sauf à un instant t égale 0, où on applique une impulsion lumineuse à delta t. Je remplace l'impulsion lumineuse par une fonction delta parce que la durée de cette impulsion est courte devant tous les autres temps du problème. Donc on a cette équation dont l'intégration est évidente, rien ne se passe avant qu'on ait appliqué l'impulsion, et puis on applique l'impulsion, et ce qu'on observe, c'est A, θ de t, ou θ de t, la fonction de Heaviside, et puissance moins j oméga 1 t, et puissance moins gamma t. On voit apparaître donc, sur la cohérence Zeeman, rien, et elle apparaît, elle oscille à oméga 1, 2, et elle est amortie avec le temps de vie de l'état excité. Donc on va voir apparaître une modulation de la lumière émise ou absorbée à la fréquence de l'armor dans l'état excité ou dans l'état fondamental, amorti par le temps de vie de l'état excité ou de l'état fondamental. La meilleure image qu'on peut se faire de ce phénomène, c'est d'imaginer qu'on a deux cordes de piano, et qu'avec un marteau, on frappe les deux cordes de piano en même temps, donc on les excite percussionnellement, elles vont ensuite vibrer chacune, indépendamment, et on va écouter un battement du signal sonore après coup. C'est exactement la même chose. Alors, la première observation de cet effet a été faite par une équipe néo-zélandaise, Dodd, Cole et Warrington, sur le cadmium. C'était pas facile à l'époque, parce qu'il fallait faire des impulsions brèves, hein, on n'avait pas encore les techniques qu'on a maintenant. Et vous voyez que l'échelle de temps ici est de la microseconde. Une microseconde, deux microsecondes. Il faut aussi mettre un champ magnétique suffisamment grand pour que la fréquence de l'armor soit grande devant la largeur naturelle de l'état excité. Donc il faut quand même pas... c'est pas facile. Depuis cette époque, le champ de recherche s'est considérablement développé avec l'apparition de lasers nanosecondes, picosecondes, maintenant femtosecondes. Et maintenant, il y a un nouveau champ de recherche qui est apparu, qu'on appelle la femtochimie, où on excite avec une impulsion ultra courte une superposition linéaire d'états de vibration ou de rotation d'une molécule, plus ou moins complexe. Donc, sur cette excitation d'une superposition d'états d'énergie, on fait un paquet d'ondes qui va évoluer aux fréquences de vibration ou de rotation, et puis une deuxième impulsion ultra courte, appliquée un délai donné après la première, va permettre de regarder ce qui se passe. Et en variant le délai entre l'impulsion pompe et l'impulsion sonde, on va reconstituer le mouvement libre de la molécule. C'est ce qu'on appelle une spectroscopie pompe-sonde résolue dans le temps. Et j'en ai donné ici un exemple. Voici, par exemple, la molécule NaI. Dans l'état fondamental, la molécule NaI, voilà le puits de potentiel ici, c'est une liaison ionique. Donc les atomes Na et I sont sous la forme Na+ et I-. Et voilà un état excité de la molécule NaI, qui est ici, où, alors, plutôt, le système est sous forme covalente, Na et I. Les deux courbes se croisent en ce point, et il y a donc un anticroisement. Donc la courbe de potentiel de l'état fondamental, c'est celle-là, et la courbe de potentiel de l'état excité moléculaire, c'est celle-là. Alors, avec une impulsion ultra courte, on excite les atomes de l'état fondamental à cet état-là, une superposition de plusieurs niveaux de vibration, et la molécule va osciller, le paquet d'ondes va osciller entre ces deux points-là. Maintenant, quand la molécule passe par ce point ici, par cet anticroisement, il y a des transitions de Landau-Zener qui se produisent, et ici, elle est sous forme covalente, ici, elle est sous forme ionique, donc en ce point-là, il y a une certaine probabilité de passage sur cet état-là par transition de Landau-Zener. Donc à chaque vibration, il y a une petite partie du paquet d'ondes qui part sur cette branche-là et sous forme covalente, sodium et iode. Et à ce moment-là, si on applique l'impulsion de pompe laser à colorant qui excite la résonance du sodium, on va détecter cette bouffée d'atomes de sodium qui passe après, à chaque oscillation. Donc vous voyez, ici c'est le dessin, le paquet d'ondes oscille comme ceci, mais à chaque passage ici, il y a une partie qui passe ici sous forme covalente, sous forme d'atomes de sodium. Et voici le signal de fluorescence, donc c'est une expérience qui a été faite par l'équipe de Ahmed Dewail, qui avait été invité au Collège de France il y a quelques années pour nous parler de tous ces problèmes, parce que c'est un des grands spécialistes de cette question. Et vous voyez ici, on voit apparaître la modulation de la fluorescence liée à cette bouffée d'atomes de sodium qui passe à chaque oscillation. Et en variant la fréquence du faisceau laser ici, on mesure la fréquence du mouvement ici pour différentes positions dans ce puits de potentiel, et à partir de cette variation de la fréquence du mouvement, on peut avoir des renseignements sur le potentiel excité de la molécule. Ici, maintenant, vous voyez que l'échelle n'est plus la microseconde, mais la picoseconde, et donc on a des structures résolues en dessous de la picoseconde, c'est donc ici dans le domaine des femtosecondes. Ça, c'est une expérience qui est de 88. Depuis cette époque, c'est encore beaucoup plus court maintenant. Et maintenant, on est vraiment dans le domaine des 10 à 12 femtosecondes. Et beaucoup d'études se font sur des molécules très complexes, des molécules biologiques. On peut étudier des transferts d'énergie, éclaircir des mécanismes de transfert d'énergie liés à la vision, par exemple. C'est donc un domaine extrêmement actif. Alors, je voudrais maintenant parler d'une situation où le battement quantique n'est pas produit par l'expérimentateur qui excite le système à un instant donné, mais par le système lui-même, lors d'une transition spontanée. Considérons par exemple un processus d'émission spontanée, qui est très bref, la durée du processus d'émission spontanée est de l'ordre de la période optique, très bref devant la durée de vie de l'état excité. Alors comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas confondre ce temps de corrélation, ce temps instantané du processus, avec le temps de relaxation. Quand le processus d'émission spontanée se produit à un instant aléatoire. Mais quand il se produit, à ce moment-là, le système est préparé de manière instantanée, quasi instantanée, par ce saut quantique. Il est préparé de manière instantanée pour une évolution ultérieure. Et à ce moment-là, des battements quantiques peuvent apparaître sur des signaux de corrélation qui sont calés sur l'instant où l'émission spontanée s'est produite. Donc on a maintenant des battements quantiques qui sont calés, non pas sur une impulsion que l'expérimentateur décide d'appliquer à un instant donné, mais sur un processus, un saut quantique qui se produit dans le système et qui se produit à un instant aléatoire. Mais une fois qu'il s'est produit, à partir de cet instant, on peut observer des phénomènes de battement quantique. Et un exemple très simple, c'est la cascade radiative de l'atome habillé, où j'ai dessiné ici les niveaux non perturbés, Fn et n-1, qui sont quasi-dégénérés, Fn plus 1 et n, et ainsi de suite. Et l'émission spontanée correspond à un saut quantique où le nombre de photons qui habillent l'atome, le photon de laser, n, ne change pas. Donc, l'émission spontanée, c'est un saut quantique entre En et Fn, n moins 1, fn moins 1, n moins 2, fn moins 2, et ainsi de suite. Alors, supposez qu'on a un saut quantique qui se produit entre n et fn. Juste après la détection de ce photon, l'atome est dans l'état fn. Alors, de l'état fn, maintenant, il ne va pas y rester. Pourquoi ? Parce que le couplage atome laser entre fn et n moins 1 va le faire passer là par des processus d'absorption, puis des processus d'émission stimulée, et n moins 1 fn. On va avoir une précession de Rabi entre fn et n moins 1. En termes différents, on peut dire aussi qu'il y a deux niveaux d'énergie qui résultent de ce couplage, que j'avais appelé 1n et 2n, deux niveaux habillés qui vont être séparés par une certaine distance, et que la préparation instantanée de l'atome dans l'état fn revient à préparer le système dans une superposition linéaire des deux états habillés. Donc c'est exactement la situation du battement quantique, on a préparé le système percussionnellement dans une superposition linéaire de deux niveaux d'énergie, et par suite, la probabilité de détecter ce deuxième photon après le premier, le suivant, va être modulée dans le temps. Conclusion, des battements quantiques apparaissent sur la fonction dg, k de taux, donnant la probabilité pour qu'un photon ayant été émis à l'instant t, le suivant soit émis à l'instant t plus tôt. Alors, le calcul est très simple, on sait que l'évolution dans la multiplicité En, Fn plus 1 ou En moins 1, Fn est décrite par cet hamiltonien effectif, où delta est le désaccord. Et gamma, la durée de vie de la largeur de l'état excité, et le signal K de taux, on part de l'état Fn, on évolue dans la multiplicité au moyen de cet hamiltonien effectif, et la probabilité d'émettre le deuxième photon, le photon suivant, va être la probabilité d'être dans l'état En-1, c'est-à-dire cet élément de matrice au carré, qui multiplie gamma. Et si vous regardez cette formule, il est clair que si on prend taux égale 0, cet opérateur est égal à 1, ces deux états sont orthogonaux, Fn et n-1, et par conséquent, k de 0 est égal à 0. Donc, après l'émission du premier photon, la détection du premier photon, par émission spontanée, donc, la probabilité qu'on émette tout de suite après un deuxième photon est nulle, parce que l'atome est dans Fn, et à partir de Fn, il ne peut pas émettre un photon, il faut qu'il soit transféré dans n-1 pour émettre un photon. Deux photons ne peuvent pas être émis à un intervalle de temps infiniment court, l'un après l'autre. C'est ce qu'on appelle le dégroupement de photons, et ça, c'est un effet typiquement quantique qui ne peut pas être compris si on décrit la lumière émise par l'atome de manière classique. Par contre, si on attend un peu, et si oméga 1 carré plus delta 2 est plus grand que gamma 2, à ce moment-là, on voit apparaître une modulation. Alors, cette description des phénomènes est à la base de ce qu'on appelle maintenant la simulation Monte Carlo de l'évolution du système d'un seul atome. En effet, cette évolution apparaît comme une suite aléatoire de sauts quantiques associés à des émissions spontanées. La distribution des délais entre deux émissions spontanées successives étant donnée par K de taux. Et entre deux sauts, on a une évolution cohérente décrite par l'hamiltonien effectif H effectif. Alors, ici, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. Le fait, chaque fois qu'on entend le mot simulation Monte Carlo, on pense que c'est une description classique. Qu'on a remplacé le. On a fait une approximation, on a décrit l'évolution du système de manière classique. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, parce qu'entre deux sauts quantiques, l'évolution du système est décrite par une fonction d'onde et par un hamiltonien. Et c'est cette évolution, décrite par une fonction d'onde et un hamiltonien, qui fait apparaître des superpositions d'états d'énergie différentes, et qui fait apparaître des modulations. Autrement dit, c'est réellement une description rigoureusement équivalente à une description complètement quantique du problème, mais qui donne un nouvel éclairage physique sur les phénomènes. Ici, il faut bien sûr manier avec précaution, parce que ça va dépendre de la base qu'on utilise, mais c'est une description dont on peut montrer qu'elle est rigoureusement équivalente à la description standard. Alors, ce résultat conduit à se poser la question suivante. Si maintenant on a une source, Ici, ce que je viens de vous décrire, c'est des corrélations temporelles sur les photons émis par un seul atome, interagissant avec une onde monochromatique. Supposez maintenant que j'ai une source thermique avec des atomes excités de manière incohérente par une décharge, ayant deux sous-niveaux excités, E1 et E2, et comme il n'y a pas de cohérence, sigma 1,2 égale 0. Il n'y a pas de cohérence Zeeman entre les deux états supérieurs. On a une source thermique avec deux sous-niveaux Zeeman. Si, comme il n'y a pas de cohérence, si je regarde la lumière émise par cette source, avec un photomultiplicateur, si je regarde le courant moyen, il n'y aura pas de modulation. Il n'y aura pas de modulation parce qu'il n'y a pas de cohérence des mains dans l'état excité. Question, est-ce qu'il peut y avoir des modulations qui apparaissent sur des signaux de corrélation d'ordre supérieur? Par exemple, sur une corrélation temporelle entre photons, sur un spectre de bruit d'intensité. En fait, il faut voir que ce problème a été posé il y a très longtemps par Forrester, Goodmanson et Johnson, qui se sont posé la question, qui ont essayé de voir l'effet. C'est à une époque aussi où on discutait beaucoup de l'effet Henry-Brown et Twiss, où on a des corrélations spatiales d'une source étendue. Et je vais essayer de vous montrer très rapidement, sans entrer dans le détail du calcul, que oui, il y a des modulations qui peuvent apparaître sur les fonctions de corrélation d'ordre supérieur. Alors, je vais passer sur les calculs. Simplement, l'idée, c'est de partir d'une fonction de corrélation introduite dans les années 60 par Glauber, qui est la fonction de corrélation d'ordre 2, et plus, et moins, qui donne la probabilité de détecter un photon à l'instant t et un autre à l'instant t plus tôt, indépendant de t dans l'espace stationnaire. Et plus et moins étant les composantes de fréquences positives et négatives du champ. Alors, quand on a une source, le champ rayonné à un instant donné provient des dipôles qui l'ont rayonné à un instant r sur c avant, t moins r sur c auparavant. Et il faut donc écrire que et plus de t, la partie, l'opérateur destruction d'un photon, c'est qui va donc détecter un photon, c'est l'opérateur di moins de l'atome i, di moins qui fait passer l'atome i de l'état e à l'état f. Un instant t moins r sur c. Et l'opérateur di moins lui-même, comme l'atome a deux niveaux de son niveau de cité, c'est l'opérateur qui fait descendre l'atome i de e1 vers f ou de e2 vers f. Alors on remplace ces opérateurs e plus et moins par les opérateurs d plus d moins. Et je vous fais grâce des calculs que vous pouvez regarder sur les notes, on a des termes i, j, k, l. On fait un calcul complet. Et on trouve des modulations. Alors, je ne vais pas détailler le calcul, je vais simplement donner l'interprétation physique maintenant. Elle est ici. J'ai représenté ici deux atomes de la source, l'atome I et l'atome J. Et la détection à l'instant T et la détection à l'instant T plus tôt. Le photon qui est détecté à l'instant T peut venir de l'atome J qui est dans E2. Et le photon qui est détecté à l'instant t. Le photon qui est détecté à l'instant t plus tôt peut venir de l'atome i dans E1. Ça, c'est une histoire possible du système. J'ai deux atomes, i et j, dans E1 et E2. Les deux atomes émettent un photon, et puis celui qui est émis par i est détecté à l'instant t plus tôt, celui qui est émis par j est détecté à l'instant t. Alors, comme c'est un phénomène stationnaire, il n'y a pas de problème de distinguer lequel a émis l'autre en distinguant le temps de propagation, parce qu'ils peuvent l'émettre à n'importe quel moment dans le passé. Mais j'ai une autre histoire, où le photon qui est détecté à l'instant t plus tôt ne vient pas de l'atome i dans l'état E1, mais il vient de l'atome j dans l'état E2. Et le photon qui est détecté à l'instant t ne vient pas de l'atome j dans l'état E2, mais il provient de l'atome i dans l'état E1. Donc on a le même état initial, le même état final, mais deux histoires différentes. On ne sait pas par quel chemin le système est passé. Et c'est l'interférence entre ces deux amplitudes de probabilité qui fait apparaître le signal de corrélation. Alors c'est exactement une grande analogie avec l'effet Henry-Brown et Twiss, à part qu'au lieu d'avoir une détection à t et une détection à t plus tôt, on a une détection à x1, une détection à x2. On étudie la fonction de corrélation spatiale du champ émis par la source, et là on voit apparaître aussi des signaux d'interférence liés à ces affaires-là. Alors ceci, la morale de cette histoire, c'est que il faut bien faire attention en mécanique quantique. Pendant très longtemps, les gens étaient paralysés psychologiquement par une phrase qui figure dans le livre de base de Dirac sur la mécanique quantique, que chaque photon n'interfère qu'avec lui-même, donc, pour décrire les expériences d'interférence lumineuse. Alors ça fait penser aux physiciens que les interférences étaient à un photon. Il peut y avoir des processus d'interférence à deux photons, c'est-à-dire ce qui interfère en mécanique quantique, ce n'est pas les photons, c'est des amplitudes de probabilité associées à des processus où des photons sont émis et absorbés. Mais chacun de ces processus peut impliquer 1, 2, 3, 4, 5 photons. Et si on a plusieurs chemins qui conduisent de l'état initial à l'état final, et qui diffèrent les uns des autres, à ce moment-là, il faut ajouter les amplitudes, prendre le carré, et ça fait apparaître des signes d'interférence. Autrement dit, le point important qu'il faut retenir de toutes ces histoires, c'est que ce qui interfère en mécanique quantique, ce n'est pas les photons, ce n'est pas les électrons, c'est les amplitudes de probabilité associées à des histoires données. Enfin, je m'excuse, j'ai encore 5 minutes, c'est bien de court pour parler des résonances noires, maintenant de Goscinny. Alors ça, c'est un phénomène qui a été très spectaculaire, que j'ai vu moi-même en visitant le laboratoire de Gaudinet à cette époque-là, qui était vraiment très joli. Vous prenez une cellule de sodium, vous la mettez dans un gradient de champ magnétique, et vous faites passer dedans un faisceau laser multimode, bimode. Alors, la résonance optique du sodium est visible à l'œil nu, on voit le trajet du faisceau lumineux, et on voit apparaître une disparition de la fluorescence à un certain endroit. C'est ce que les gens de Pise, Goldini, Alzetta, Moy, Orioles, appelaient une résonance noire. En regardant de près ce qui se passait, ils se sont rendus compte que la résonance apparaissait à un endroit, ici le champ varie, une valeur du champ magnétique telle que l'écart entre deux modes du laser est égal à l'écart d'énergie entre un niveau Zeeman d'un niveau hyper fin et un niveau Zeeman d'un autre niveau hyper fin. Et c'est là qu'apparaît la résonance noire. Alors très peu de temps après, Arimondo et Auriol ont publié une lettre, donc en même année, analysant ce problème à partir des équations de Bloch optique, en prenant un modèle simplifié à trois niveaux, deux niveaux F1, F2, un niveau excité E0, excité par un laser ω1 et ω2, et on écrit les équations de Bloch optique, elles peuvent être résolues analytiquement, et on fait varier ω1 moins ω2, et on appelle delta le désaccord par rapport à la résonance Raman stimulée. Résonance Raman stimulée quand ωL1 moins ω2 fait passer de F1 à F2 exactement. Donc delta, c'est le désaccord à la résonance Raman. Et quand on résout les équations de Bloch optique, on trouve que la population du niveau excité est 0, et donc la fluorescence s'annule exactement et rigoureusement quand delta est égal à 0. Donc la fluorescence s'arrête quand la résonance Raman est satisfaite. Et on trouve en même temps que l'élément non diagonal de la matrice densité entre F1 et F2 passe par un maximum quand delta égale 0. Donc les atomes sont piégés dans une superposition linéaire des états F1 et F2. Alors je crois que l'approche atome à billet est beaucoup plus commode pour comprendre ce qui se passe. Et j'ai dessiné ici des niveaux d'énergie de l'atome à billet par les deux photons N1, ω1 et ω2. Un atome excité avec N1 photon ω1, N2 photons ω2. Un atome dans l'état F1 avec un photon ω1 de plus, le même nombre de photons ω2, et ensuite F2, N1, N plus 1. Ce désaccord ici, c'est le désaccord à résonance du premier laser avec la transition F1 et 0, et ce désaccord ici, c'est le désaccord du deuxième faisceau laser avec la résonance. Et si je prends maintenant la différence d'énergie entre ces deux niveaux, je m'aperçois que cette différence n'est autre que l'écart à la résonance Raman. En d'autres termes, la résonance Raman est réalisée quand les deux niveaux F1, N1 plus 1, N2 et F2, N1, N2 plus 1 sont dégénérés. Donc la résonance Raman, ce n'est pas la résonance optique, c'est la résonance entre les deux niveaux F1, N1 plus 1, N2 et F2, N1, N2 plus 1. Et bien sûr, on a ensuite les couplages de Rabi, oméga 1 entre ces deux états et oméga 2 entre ces deux états. Alors j'appelle H bar oméga 1 sur 2 cet élément de matrice, H bar oméga 2 sur 2 cet élément de matrice. Alors à ce moment-là, si dans la multiplicité fondamentale, je peux prendre n'importe quelle base. Et si je prends la base ψC, ψNC, où je superpose linéairement F1, N1 plus 1, N2 et F2, N1, N2 plus 1 avec des coefficients oméga 1 sur oméga, oméga 2 sur oméga, ou oméga 2 sur oméga, moins oméga 1 sur oméga, ou oméga c'est racine carrée de oméga 1 carré plus oméga 2 carré, j'ai deux états orthogonaux qui forment une base dans le sous-espace de l'état fondamental. Mais avec ce choix que j'ai pris ici, oméga 2, oméga 1, si je pars de cet état et que j'essaye d'aller dans l'état excité, le premier faisceau laser va me donner un oméga 1 en plus ici, le deuxième faisceau un oméga 2 ici, et à ce moment-là, les deux vont interférer destructivement. Je m'aperçois que l'interaction atome-laser entre ψNC et E0 est un élément de matrice nul. Alors que l'autre état, un élément de matrice non nul égal à H bar oméga. Autrement dit, quand les deux niveaux sont couplés au même état supérieur, on peut toujours trouver une combinaison linéaire des deux qui n'est pas couplée, une combinaison linéaire orthogonale qui bien sûr est couplée. Autrement dit, dans l'état ψNC, NC ça veut dire non couplé et ψ ça veut dire couplé, dans l'état ψNC, L'atome peut absorber un photon à partir de F1, il peut absorber un photon à partir de F2, mais il faut ajouter les amplitudes, et les deux amplitudes interfèrent destructivement. Alors que dans le cas Psi-C, elles interfèrent constructivement. Donc c'est un bel effet d'interférence quantique. C'est un état qui n'est pas couplé à cause d'une interférence destructive entre deux amplitudes d'absorption. Alors, quand delta égale 0, quand on est à résonance Raman, les deux états F1, N1 plus 1, N2 et F2, N1, N2 plus 1 qui sont en plus dégénérés. Donc, leur combinaison linéaire a la même énergie. Les deux états sont des états propres de L0, l'hamiltonien non perturbé, et comme ils sont dégénérés, leur combinaison linéaire, PsiNC, est aussi un état propre de L0. Et comme VAL agissant sur PsiNC donne 0, PsiNC est aussi un état propre de A0 plus VAL. Enfin, aucune émission spontanée ne peut se produire à partir de PsiNC, puisque c'est une superposition de deux états fondamentaux. Donc, quand un atome est dans l'état PsiNC avec delta égale 0, il ne peut pas absorber de lumière, il ne peut pas en émettre, et il n'évolue pas parce que c'est un état propre de L0. Donc un atome qui est dans l'état PsiNC, il reste indéfiniment. Alors, on comprend maintenant le piégeage cohérent de population. Dans la cascade radiative de l'atome habillé, il y a une certaine probabilité qu'au cours de la cascade, l'atome tombe dans PsiNC. Si delta égale 0, à ce moment-là, la cascade s'arrête. Parce qu'à partir de cet état, il ne peut plus bouger, il ne peut plus émettre, il ne peut plus absorber, il reste indéfiniment. Donc c'est un piège parfait, c'est un état noir. On appelle ça un état noir. Si maintenant delta n'est pas égal à 0, quand l'atome tombe dans l'état PsiNC, immédiatement il ne peut pas absorber de lumière, parce qu'il n'est pas couplé à l'état excité. Mais ce n'est pas un état propre de A0, il est couplé donc à Psi-C. Et il est facile de voir que l'hamiltonien non perturbé A0 a un élément de matrice non diagonale entre PsiNC et Psi-C qui est proportionnel à delta, puisqu'il s'annule pour delta égale 0. Donc, au cours de la cascade radiative, quand elle tombe dans PsiNC, il passe dans Psi-C parce qu'il est couplé par A0, et de Psi-C, lui, il peut absorber la lumière de nouveau, et la cascade peut continuer. Donc, et d'autre part, comme la probabilité qu'il passe dans Psi-C est proportionnelle à delta au carré, on comprend pourquoi la fluorescence réapparaît de manière parabolique au voisinage de l'état noir. Donc, cette image permet de comprendre clairement ce qui se passe et permet de calculer quantitativement le signal. Alors, je reviendrai dans la suite quelques fois sur l'importance des états noirs. Je voulais simplement dire qu'ils ont eu énormément d'applications. Les états noirs sélectifs en vitesse, c'est ce qui nous a permis à Paris de faire le refroidissement subrecul. Je vais en parler, j'en ai parlé en détail dans le cours 91-92, je vais en parler un petit peu dans le cours 9. La transparence induite par un champ électromagnétique, on a un milieu qui est complètement, une épaisseur optique très très grande, un faisceau lumineux ne peut pas le traverser à partir d'un état F1, mais on applique un faisceau laser de contrôle à partir d'un état F2, différent de l'état F1, vers le même état excité. À ce moment-là, les atomes sont placés dans une superposition linéaire de F1 et F2 qui n'absorbe plus de lumière, et le faisceau lumineux passe. C'est ce qu'on appelle la transparence induite par la lumière, et je vous renvoie à cet article de Steve Harris dans Physics Today 97, où il y a une revue complète de ce phénomène. Aussi, au voisinage d'un état noir, comme l'absorption varie très rapidement sur un intervalle très petit, l'indice de réfraction aussi varie de manière très rapide au voisinage de ce point-là. La vitesse de groupe de la lumière varie de manière extrêmement rapide et des groupes d'expérimentateurs, l'INAO par exemple, ont pu ralentir la lumière, la ralentir jusqu'à des vitesses de l'ordre de quelques mètres par seconde grâce à cet effet de variation très rapide de l'indice de réfraction. Enfin, si on passe continuellement d'un état à un autre en prenant des états noirs dont on fait varier la proportion de F1 et F2 en variant l'intensité des deux lasers, on peut passer adiabatiquement d'un état moléculaire à un autre état moléculaire avec une efficacité de 100%. Et ça, c'est une méthode qui se révèle très très féconde en physique moléculaire qu'on appelle la méthode STIRAP de Klaus Bergmann, Stimulated Raman Adiabatic Passage, et que j'ai étudié en détail dans le cours 91-92. Et je vous renvoie aussi à un article de revue d'Ennio Arimondo dans Progrès in Optique, où il passe en revue un petit peu toutes ces applications. Mais toutes ces applications proviennent en fait du fait que l'état noir est une superposition linéaire de deux états. Ça montre là encore l'importance des interférences quantiques. Donc je m'excuse d'avoir dépassé un petit peu, donc je m'arrête et je reprends dans 20 minutes.